Les naufragés, par Henri de Berly. Il n'y a pas, bien sûr, madame, de quoi rire aux larmes. Il n'y a pas, bien sûr, non plus de quoi s'attendrir. Mais que l'on s'en étonne, je le comprends. Il s'agit là des 24 heures les plus émouvantes que m'ait procuré l'existence, et vous pourriez interroger cet aventurier sans rien trouver d'aussi étrange que cette histoire-ci dans la foule de toutes celles qu'il vous raconterait. Le point du monde où c'est arrivé importe peu, a-t-il même un nom, au surplus. Si vous prenez un planisphère, du côté mer Rouge, vous trouvez le détroit de Bab-el-Mandeb. À l'ouest est Djibouti, à l'est Aden. Derrière Aden, il n'y a rien. Il y a du jaune, une espèce de grand trapèze jaune sur lequel est tracé le mot Arabie. Ça s'est passé sur un des bords de ce trapèze-là, sur le bord sud que baigne, madame, l'océan Indien, pas très loin d'Aden, vous vous situez. Je vous ferai grâce du naufrage. Un bateau un peu fort qui talonne une roche, les écrivains de toutes les langues vous ont décrit ça. Ce n'est jamais, bien entendu, d'une puissante gaieté. Pourtant, le petit jour est une bonne heure. On y voit clair pour amener les embarcations, et le soleil, encore timide, ne complique pas tout. Nous rendîmes grâce au capitaine d'avoir choisi l'eau pour jeter au plein son navire. S'il manquait d'habileté, il avait du tact. C'était d'ailleurs, depuis Manille, qui n'est pas si proche, le premier ennui grave qu'il nous causait. La côte était à 500 mètres, ou peut-être à moins. En mer, madame, et notamment quand l'esprit s'égare, on apprécie mal les distances. Enfin, nous le touchions, nous y étions. Nos canots abordèrent sur un littoral dont j'ose dire qu'il n'offrait que peu d'agréments. Imaginez une plage de sable et quelques rochers. Végétation, habitation, homobètes, patrasse. Le désert de poussière près du désert d'eau. Nous étions au total 62 personnes, ce qui mit vos pensées de l'animation. Pourtant, nous causions peu, nous chantions peu. La grosse chaleur semblait vouloir venir assez vite, puis nous n'étions pas disposés. Madame, le ton que j'ai pris là m'exaspère moi-même, malséante forfanterie. Voyez donc l'insouciance que je m'attribue. Or, j'étais, comme chacun, dévoré d'angoisse. Et le seul homme qui, parmi nous, parut à son aise, c'était le commandant, et pas un autre. Trop d'existence, dans ce malheur, dépendait de lui pour qu'il pût songer à la sienne. Il allait et venait, nous réconfortant, plaisantant même, et je crois bien, pour nous dérider, renchérissant sur son terrible accent provençal. Heureusement, notre épave encombrait la mer. Empalée par l'avant et l'arrière dans l'eau, elle faisait assez bien le bonnet d'évêque, comme les gourmets, les galopins et les cuisinières disent de la carcasse du canard. Le commandant nous répétait avec assurance « Nous sommes sauvés, grâce à elle. » Et il nous expliquait qu'en la voyant, le premier bâtiment qui passerait au large dépêcherait à la côte une embarcation. Barbara Coxham se taisait. C'était, je crois, la première fois depuis Singapour. Vous la décrire ? Une grande Anglaise, bâtie en Junon, équilibrée comme une panthère et fraîche comme un fruit. Belle, bien sûr. M'en serais-je occupé sans ça? C'était au premier temps des cheveux courts. Ceux de cette charmante fille, marron, brillant, coupés carrément sur la nuque, étaient peut-être et les plus fins et les plus fournis qu'eût gonflé la brise tropicale. Barbara n'avait rien de la Miss classique. Si elle aimait les sports, elle s'en cachait. Ce qu'elle disait n'était ni plat, ni tranchant, ni sot, mais tout empreint d'humanité, langoureux parfois. Elle descendait, affirmait-elle, d'une famille nimoise autrefois émigrée chez les Britanniques. On en pouvait d'abord douter à cause de son nom. Sa chaleur et sa grâce m'avaient convaincu. N'allez pas croire que les loisirs de la traversée nous eussent rapprochés à l'extrême. J'en étais, madame, amoureux. Je méditais à cette époque de faire d'elle ma femme, et je crois bien qu'elle eût fini dans cette condition n'eût été 1000 détails qui nous séparèrent. Son père trafiquait à Java. Elle retournait en Grande-Bretagne pour soigner une tante qui devait lui laisser une fortune énorme et désirait, les vieilles anglaises ont parfois du goût, achever de mourir dans les bras charmants de cette héritière digne d'un prince. Elle le fit. C'est une chance que je n'aurais pas. Sur le bateau, je préparais cet instant suprême, je veux dire mon trépas, dans les bras charmants, en m'ingéniant à faire éclore la résolution qui pourrait un jour l'assurer. Barbara répondait à toutes mes avances. Mais j'y insiste, avec réserve, en veillant sur elle, et sans jamais se départir de cette grande tenue qui la rehaussait à mes yeux. Nos canots reposaient sur le sable sec. Autour de nous s'étaient formés des groupes consternés. Mon ami, qui s'était attaché à moi, considérait tantôt la dune et tantôt la mer, non comme une femme qui court sa chance dans une catastrophe, mais en majesté offusquée. Elle eut des mots sans indulgence pour le capitaine, d'autres vraiment durs pour l'écueil. Quant au navire, elle trouvait bon qu'il finît ainsi pour lui apprendre à courir l'eau sur des tôles si minces qu'un éclat de rocher les endommageait. Tout cela n'était point d'une parfaite justice. La justice exige du confort. Elle exige avant tout de l'indifférence à la tournure plus ou moins grave que prendront les faits au milieu desquels elle s'exerce. Or, vraiment, à cette heure, nous manquions des deux. Le soleil nous brûlait à travers nos blancs, et sous nos casques, encore certains n'en avaient-ils pas, il faisait bouillir nos cervelles. Quelques rochers, comme je l'ai dit, d'ailleurs assez gros, étaient la seule végétation de cette côte affreuse. S'ils n'avaient été là pour nous abriter, nous serions tombés morts sur place. À 200 pas, la mer indienne brillait sans une ride. « J'ai soif, » dit soudain Barbara. Ce ne fut qu'un soupir à peine accentué, mais dans le cas plutôt critique où nous nous trouvions, il me déchira comme une plainte. « Dites, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire ? » demanda-t-elle avec angoisse, un instant après. « Devons-nous périr de mort lente ? N'avons-nous échappé à cette mer stupide que pour mourir de privation au milieu des sables ?» Je lui appris que l'armement des embarcations comportait de l'eau fraîche et des caisses de vivres, grâce auxquelles nous pourrions, en nous rationnant, subsister au moins une semaine. À l'instant, on eût dit qu'elle ressuscitait. « Quoi, c'est exact? Vous en êtes sûr? Et nous en restons là ?» Notre inaction faisait horreur à cette âme de feu comme une défaillance sans excuse. Je tentais, mais en vain, de la justifier. Elle ne semblait ni m'écouter ni vouloir m'entendre. Tout à coup, s'avançant vers le capitaine qui circulait parmi les groupes avec bonne humeur, malgré la chaleur accablante, « Commandant, lui dit-elle, il faut partir. » Il secoua la tête, fit un geste. « Je veux bien, Miss Coxham, mais pour aller où ?» Elle sentit la colère lui monter au cœur contre cet homme qui, responsable en somme du naufrage, témoignait à ses yeux d'une mollesse sans nom, quand il pouvait seul nous sauver. « Je ne sais pas. Vous avez l'eau, vous avez la terre. Un capitaine de mon pays ferait quelque chose. Les capitaines de mon pays sont de rudes lutteurs, que les pires événements n'embarrassent jamais. » Soudain, nous perçûmes de forts cris. Cela montait dans l'air limpide, venant d'assez loin, et bientôt la clameur fut toute proche de nous. Elle résonnait de façon telle qu'elle glaça mon sang. Nous nous regardâmes interdits. Le temps de nous lever, de quitter l'ombre et sur la dune, nous distinguâmes une trentaine d'Arabes qui, balancés au trot bronchant de leur dromadaire, accouraient sur nous en hurlant. Emmitouflés comme ils l'étaient, de la tête aux pieds, nous ne pouvions voir que leurs yeux. Chacun d'eux brandissait un énorme rifle. Ils se formaient en éventail quand nous nous montrâmes, ceux des ailes s'arrangeant pour nous déborder, puis ils ralentirent leur monture. En même temps, la plupart nous couchaient en joue. Leurs accents rauques ne cessaient pas d'ébranler les airs, et leurs prunelles, fixées sur nous, rayonnaient d'un feu qui terrifiait même les plus braves. Du troupeau blanc que nous formions, au milieu des roches, le capitaine avait bondi, les bras étendus. « Des pillards » cria-t-il. « Levez vite les mains, n'essayez pas de résister ou nous sommes tous morts. » Nous lui obéîmes en tremblant. Ce qui suivit, ah ça, madame, il faut l'avoir vu. Au moment de quitter le navire échoué, nous avions tous, bien entendu, fourré dans nos poches ce que nous avions de précieux. Les nomades auraient pu nous dévaliser. D'un commun accord, ils firent mieux. 5 minutes leur suffirent, une fois parmi nous, à nous dépouiller complètement. Après quoi, de nos frusques, ils chargèrent leurs bêtes et reprirent au grand trot la route du désert. Faites ici un effort d'imagination. C'est nécessaire pour savourer toute notre aventure dans ce qu'elle eut de dramatique et d'exceptionnel. Le midi des tropiques. Un rivage brûlé. La mer devant, à l'infini, et derrière, le sable. Sur le bord de la grève, au milieu des rocs, dévorés des morsures d'un soleil sans nom, 14 femmes, 48 hommes, absolument nus, parmi eux des vieillards et plusieurs infirmes. Le capitaine, qui jusque-là nous réconfortait, devenu vert humain, comme la foule des autres. Sur ces malheureux, la stupeur. On la sentait, on la voyait qui montait du groupe, aussi dense que la buée de nos corps en nage. Nos compagnes s'appliquaient à cacher leurs seins, comme si la honte eût résidé dans ces appendices qu'elles nous montraient généreusement, la veille au salon. Nous, les hommes, ne savions où porter nos mains. Nos deux faces nous gênaient presque au même degré. Ce bouleversement dura peu, mais quand j'y pense, je cherche en vain à situer l'instant où les plus sages, et tout compte fait, sans doute les moins laids, reprirent de l'aisance les premiers. Aussi bien la chaleur dut avoir son rôle. Barbara, qui d'abord s'était éloignée, revint à moi naturellement d'une marche assez fière, quand je l'ai regardée à plusieurs reprises et qu'elle sentit que nul des traits de son corps puissant n'était plus pour moi mystérieux. Nous nous retirâmes sous une roche. L'ombre était courte et ne formait qu'une petite tache ronde au pied même de l'abri dans sa partie creuse. Barbara s'y assit en ployant la nuque et me fit une place auprès d'elle. « Maintenant, me dit-elle, nous sommes bien perdus. » C'était hélas mon sentiment qu'elle exprimait là. J'essayais malgré tout de la rassurer. « Vous savez bien que de la terre nous n'attendions rien, » fis-je observer en désignant la dune derrière nous. « Pas même ce qui est venu, » insistai-je. « Je le sais, » reprit-elle, « c'est venu quand même. » « Nos raisons d'espoir sont intactes. Un bâtiment peut être en vue d'une minute à l'autre. » Rappelez-vous ce que disait notre commandant avant l'arrivée des pillards. Excepté les navires des services d'Afrique, tout ce qui sort de la mer Rouge ou gagne la mer Rouge passe nécessairement par ici. Notre épave est, Dieu sait, assez apparente. Quelqu'un finira par la voir. Prenons patience et nous serons certainement sauvés. Les mots sonnaient creux sur mes lèvres. Elle sourit d'un air triste et secoua la tête. Nus comme nous sommes, presque sans vivre, avec ce soleil, soupira-t-elle, une de ses mains, laissant fuir du sable et les yeux fixés sur les flots. « Enfin, dit-elle, la mer est là. Nous mourrons au frais. » J'ai encore de l'oreille ses dernières paroles. Elle les souligna d'un rire sec. Son désespoir, malgré mes soins, dura fort longtemps. Peu à peu, cependant, elle se ressaisissait, et j'eus la joie de la voir mordre aux encouragements que je murmurais sans y croire. « Ah, madame, quel spectacle et qu'il me toucha !» Son beau visage, tourné vers moi, reprenant couleur, paraissait un fruit mûrissant. Son sein ranimé palpitait. « J'ai confiance, disait-elle. Mais êtes-vous certain ?» La sentant passionnée de l'entendre encore, je répétais le mot certain d'une voix pleine de feu, dont le timbre agissait comme eût fait un charme. Lorsqu'à la fin j'eus réussi à la persuader que notre cas vaudrait à peine qu'on en dit un mot dans les rudes annales des naufrages, elle appuya sur mon épaule sa chère tête bouclée, puis nos mains se joignirent et restèrent unies. Les ombres des rocs s'allongeaient. Dans notre gîte, l'obscurité s'était faite déjà, et toute une part, tiède et moelleuse, du corps désiré reposait sur ma chair avec abandon. Les moins purs de mes rêves pouvaient s'accomplir. Tout l'aurait, en somme, excusé. Pourtant, madame, et j'ai parfois l'impression très nette qu'on m'a tint rigueur par la suite, non seulement je gardais une complète réserve, mais j'évitais avec scrupule, dans nos rapprochements, toute mollesse dont se fussent excités mes sens. Même alors, sans espoir, et comptant nos heures, mettre à profit pour triompher de ma belle compagne, des instants si critiques pour sa volonté, je ne le cache pas, m'eût fait honte. Au surplus, comment dire, nous étions trop nus. Nous l'étions trop, non comme des hommes, mais bien comme des bêtes. Ce qui surprend et nous émeut dans la vue d'un cours lorsqu'il se dépouille pour nous plaire, nu par force, étouffait ma concupiscence. J'ai su depuis que certains êtres, en péril de mort, oubliaient toute menace, ou s'en exaltaient pour ne plus songer qu'au plaisir. Madame, je les admire, ce sont des sages, mais j'ai perdu toute ambition de leur ressembler. Comme déjà le soleil n'était plus une gêne, nous vîmes deux hommes quitter la pierre qui les abritait et se diriger vers la mer. Ils marchaient librement et résolument. Soudain, l'un d'eux, se retournant, fit signe à cinq autres et tous les sept gagnèrent l'endroit où le flot sans force expirait sans bruit sur la grève. Le capitaine avait bondi sur ses excentriques. « C'est bon, » crièrent-ils, « n'ayez crainte. » Il nous parut qu'à l'instant même où ils touchaient l'eau, un grand soupir de soulagement montait jusqu'à nous. Une minute, et près d'eux, nous étions 50. Barbara m'avait entraîné. Le capitaine qui surveillait nos évolutions nous criait du rivage de rester groupés et de mener un grand tumulte en battant la mer pour chasser les requins qui foisonnent par là. Mais la plupart, tout au délice de se rafraîchir, ne songeaient même pas au danger. Dans la nuit qui bientôt rayonna sur nous, favorisée de tant d'étoiles et d'une lune si pleine qu'elle nous découvrait l'horizon, vous eussiez dit, de ces baigneurs sans aucune prudence, aller voir s'ébattre, hommes et femmes, je ne sais quelle partousse d'exhibitionnistes organisés dans les écarts d'une plage à la mode. Certains donnaient positivement des signes de folie. Si je n'eusse été là pour l'en empêcher, mon amie, je crois bien, excellente nageuse, se serait lancée vers le large. Les requins n'auraient eu qu'à venir et mordre. Par un prodige, il n'arriva aucun accident. Notre chef, dont les traits respiraient l'angoisse, nous fit sortir au bout d'une heure et courir à lui en criant qu'il allait distribuer des vivres. L'opération qu'on attendait avec impatience s'était déjà faite le matin. Mais alors la pudeur nous paralysait. Nous avions mangé honteusement. Chacun de nous, prenant sa part, les paupières baissées, l'avait emporté comme une proie et s'était réfugié dans son mauvais trou. Quelle différence avec l'ardeur dont nous témoignâmes et notre conduite, nos manières, quand la pitance de la soirée nous fut répartie. Nous avions formé plusieurs groupes. Un peu de brise rafraîchissante arrivait du large et loin des rocs, à même la dune, pour mieux respirer, nous dévorions notre conserve et nos biscuits secs dans l'oubli total de notre corps. La hanche de l'un servait d'appui à l'épaule d'un autre. J'ai vu des femmes, qui n'étaient pas, que je sache, des grues, devenir familières avec leurs voisins jusqu'à toucher du bout des doigts leurs bras ou leurs jambes quand ce n'était pas leur poitrine, pour comparer leurs épidermes avec le leur propre. Ah, sans doute, nulle gaieté ne régnait nulle part. À l'expression désordonnée d'espérances fiévreuses succédaient de longs abattements. Toujours de bonne humeur, toujours debout, le capitaine, sans se lasser, nous réconfortait de sa belle faconde marseillaise. Il était jeune, et même les choses s'arrangeant au mieux, c'était un homme dont la carrière était terminée. J'aurais défié n'importe qui tant il était brave, de s'en rendre compte à sa mine. Sur ses lèvres, une saillie n'attendait pas l'autre. Que se passa-t-il dans la nuit? Mystère, madame. C'est le secret de ce point du monde dont la vue seule, après 8 ans et 1000 distractions, me ferait pâlir d'épouvante. Oui, certainement, j'ai entendu des râles équivoques. Barbara me soufflait. Ils ont soif, les pauvres. Et chantonnait pour me faire croire à son insouciance. De quelle voix forcée, misérable! Son inquiétude avait repris avec les ténèbres. Elle geignait par instants comme une suppliciée. Lorsque l'aurore vint nous tirer d'un sommeil fiévreux, sa tête reposait sur mon sein. Autour de nous, dans un rayon d'une 30aine de pas, ce n'était de toutes parts que corps étendu. Ils se redressèrent tristement. Les yeux des hommes, désespérés, exploraient les flots et des femmes pleuraient dans leurs mains. Mais personne ne songeait au regard d'autrui. Un navire parut vers 9 heures. Minute sans nom. Allait-il voir notre coque échouer ou tenir d'ouest en est tranquillement sa route? Si vous saviez, dans certains cas, comme ça paraît lent, un bateau qui marche à 15 nœuds. Lorsqu'enfin nous comprîmes qu'il venait sur nous, nous étions tous à moitié morts d'émotions nerveuses et frissonnions, sous le soleil qui nous rôtissait. Soudain, nos clameurs éclatèrent. Bientôt après, 12 ou 15 hommes, s'étant concertés, firent une pyramide de leur corps, et le plus mince, le plus agile, lorsqu'il fut en haut, poussa les cris d'une bête féroce pincée dans un piège, en gesticulant comme un fou. Le navire détachait une embarcation. Certaines gens se mirent à danser, mais l'un de nous, n'y tenant plus, entra dans la mer et partit à la nage de toute sa vigueur. Brusquement, un appel déchira l'espace. Nous ne vîmes rien qu'une gueule énorme émergée des vagues. Une énorme queue fouettait l'eau. Le disparu voyageait seul depuis Singapour. On m'a dit que c'était un planteur de thé, et qu'il avait passé la nuit à rire comme une hyène en se traînant à 4 pattes au milieu des dunes. Quand le canot se fut échoué sur le sable humide, ceux qui le montaient restèrent quoi? C'était pourtant 5 durs gaillards. Anglais tous les 5, et comme tels habitués à dompter leurs nerfs. Nous grouillions autour d'eux comme une foule de larves. Le capitaine les mit au fait de notre aventure. Ils balancèrent la tête, puis reprirent l'eau, sans consentir, malgré nos cris, à charger personne, et de leur bord nous dépêchèrent trois puissantes chaloupes qui nous apportaient des vêtements. Alors, madame, se produisit une chose incroyable, et vraiment, c'est ici qu'on mesure les hommes. Non sans espoir de remédier à notre infortune, nous circulions depuis la veille, nos chairs se touchant avec une tranquille impudeur. On nous remit des kimonos et des pyjamas, qui étaient pour nous parmi la foule de passagers riches, que le vapeur qui nous sauvait ramenait des Indes. Nous n'avions pas entre les mains ces pièces d'habillement qu'il aurait fallu nous voir fuir. Comme si l'état où les pillards nous avaient laissés nous avait à cette heure soudainement fait honte, nous courûmes tous qui dans les dunes et qui vers les roches, n'ayant souci que d'un endroit un peu abrité où couvrir nos corps sans témoins. De nouveau, nous cachions nos parties intimes des regards qui, pleins de gêne et de confusion, se dirigeaient tous vers la terre. Notre toilette nous prit un temps qu'on n'imagine pas quand on pense qu'une minute y aurait suffi. Jamais peut-être, autant de mains, impatientes, nerveuses, ne s'escrimèrent au même instant à se servir de peigne avec une ardeur plus sauvage, car déjà toute angoisse était oubliée. Les conventions avaient repris toute leur force aveugle et la légèreté tous ses droits. Si nos compagnes avaient osé prononcer un mot, elles se seraient, j'en suis certain, montrées mécontentes qu'avec les robes et les peignoirs, personne n'eût songé à leur envoyer des crayons. Une heure après, nous étions tous à bord du Silvern. Le bâtiment comptait encore 19 couchettes libres, et nous étions 61 pour les occuper. Des Anglais généreux nous prêtèrent les leurs. On nous installa comme on put. Quand nous parvînmes à Port Saïd, où nous transbordâmes, il y avait exactement 6 jours et 5 nuits que je n'avais vu Barbara. Ni les chaleurs de la mer Rouge, ni l'arrêt à Suez ne l'avaient conduite sur le pont. Elle était, paraît-il, légèrement souffrante. J'en pus douter à voir sa mine plus fraîche que jamais sur le navire, qui s'apprêtait à rallier Marseille, par lequel nos consuls nous rapatrièrent. Aussi bien, questionnée sur sa maladie, rougit-elle d'abord sans répondre. Je lui parlais naturellement de notre aventure, mais dès les premiers mots, elle m'arrêta. « Stupide histoire » murmura-t-elle avec impatience, en se détournant, l'air gêné. Et jamais plus, tant que durèrent nos vagues à Cordail, il n'en fut entre nous autrement question. Ainsi s'achève Les Naufragés par Henri de Berlie.